Ce sont des choses que tout un chacun pense, acheva d'Artois, mais que nul n'ose proclamer faute de preuves. Seulement je l'ai, la preuve. Moi, je vais maintenant produire une certaine dame qui a fourni le poison. Et puis après, il faudra faire un peu chanter dans des brodequins de bois la Béatrice d'Hirson qui a servi le maquerel du diable en ce beau jeu. Il est temps d'y mettre fin, sinon nous allons tous y passer.
50 livres, monseigneur. Je puis vous remettre 50 livres.
Avare !
C'est tout ce que je puis.
Soit ! Tu m'en devras donc 50 autres. Mao te paiera tout cela, avec les intérêts.
Guccio, dit Tholomei, viens donc m'aider à compter 50 livres pour monseigneur.
Et il se retira avec son neveu dans la pièce voisine.
Mon oncle, murmura Guccio, croyez-vous qu'il y ait du vrai dans ce qu'il vient de dire ?
Je ne sais, mon garçon, je ne sais. Mais je crois que tu as raison assurément de partir. Il n'est pas bon d'être trop mêlé à cette affaire qui a mauvaise odeur. Les étranges manières de Bouville, la soudaine fuite de Marie, sans doute on ne peut prendre au comptant toutes les agitations de ce furieux, mais j'ai souvent remarqué qu'il ne passait pas loin de la vérité lorsqu'il s'agissait de méfaits. Il y est maître et les respire de loin, rappelle-toi l'adultère des princesses. C'est bien lui qui l'a fait découvrir, et il nous l'avait annoncé. Ta Marie, dit le banquier en balançant sa main grasse d'un geste de doute, elle est peut-être moins naïve et moins franche qu'elle semblait. Il y a certainement un mystère.
Après sa lettre de trahison, on peut tout croire, dit Guccio, dont la pensée s'égarait dans 20 directions.
Ne crois rien, ne cherche rien, pars, c'est un bon conseil.
Quand Monseigneur d'Artois fut en possession des 50 livres, il n'eut de cesse que Guccio partagea la petite fête qu'il comptait s'offrir pour célébrer sa libération. Il lui fallait un compagnon, et il se fût saoulé avec son cheval plutôt que de rester seul. Il y mettait tant d'insistance que Tholomei finit par souffler à son neveu.
« Va, sinon nous allons le blesser, mais tiens ta langue. »
Guccio termina donc sa désespérante journée dans une taverne dont le tenancier payait tribut aux officiers du guet pour qu'on le laissât faire un peu de trafic bordelier. Toutes les paroles qui se prononçaient là étaient d'ailleurs répétées à la sergenterie. Monseigneur d'Artois s'y montra dans son meilleur, insatiable au pichet, prodigieux d'appétit, braillard, ordurier, débordant de tendresse envers son jeune compagnon et retroussant les jupes des filles pour faire reconnaître à chacun le vrai visage de sa tante Mao. Guccio, pris d'émulation, ne résista guère au vin. L'œil brillant, les cheveux en désordre et le geste mal assuré, il criait
« Moi aussi, je sais des choses. Ah, si je voulais parler !»«
Parle donc, parle !»
Il restait à Guccio dans le fond de son ivresse une lueur de prudence.
« Le pape !» dit-il. « Ah, j'en sais long sur le pape !»
Soudain, il se mit à pleurer comme une rivière dans les cheveux d'une ribaude qu'il gifla ensuite parce qu'il voyait en elle l'image de toute la trahison féminine.
« Mais je reviendrai et je l'enlèverai !»
« Qui donc ? Le pape ?
Non, son enfant !»
La soirée tournait à la confusion. Les regards étaient vacillants et les filles fournies par le bordelier n'avaient plus guère de vêtements sur la peau quand Lormay s'approcha de Robert d'Artois pour lui dire à l'oreille
« Il y a dehors un homme qui nous épie. »«
Tue-le ! »
répondit négligemment le géant.
« Bien, monseigneur. »
Ainsi, Madame de Bouville perdit un de ses valets qu'elle avait attaché au pas du jeune Italien. Jamais Guccio ne saurait que Marie, par son sacrifice, lui avait probablement épargné de finir le ventre en l'air sur les flots de la Seine. Vautré dans une couche douteuse, sur les seins de la fille qu'il avait giflée et qui se montrait compréhensive au chagrin de l'homme, Guccio continuait d'insulter Marie et imaginait se venger d'elle en pétrissant une chair mercenaire.
« T'as raison, moi non plus j'aime pas les femmes, c'est toutes des trompeuses !»
disait la ribaude dont Guccio ne se rappellerait jamais les traits. Le lendemain, le chapeau enfoncé jusqu'aux yeux, les membres là, l'âme et le corps également écœurés, Guccio prenait la route d'Italie. Il emportait une coquette fortune sous forme d'une lettre de change, signée de son oncle, et qui représentait sa part de bénéfice sur les affaires qu'il avait traitées depuis 2 ans. Le même jour, le roi Philippe V, sa femme Jeanne et la comtesse Mao, avec tout leur train de maison, arrivaient à Reims. Les portes du manoir de Cresset s'étaient déjà refermées sur la belle Marie, qui y vivrait inconsolable un perpétuel hiver. Le vrai roi de France allait grandir là, comme un petit bâtard. Il ferait ses premiers pas dans la cour boueuse parmi les canards. Il irait rouler dans la prairie aux iris jaunes, le long de la Mauldre, dans cette prairie où Marie, chaque fois qu'elle y marcherait, revivrait ses brèves et tragiques amours. Elle tiendrait son serment, tous ses serments envers Guccio comme envers le royaume, garderait son secret, tous ses secrets, jusqu'à son lit de mort. Sa confession, un jour, troublerait l'Europe.